Bienvenue, on se retrouve dans quelques instants pour le grain à moudre d'été à 18h15, mais tout de suite, c'est le journal. Journal présenté par Anne Fauquemberg, bonsoir.
Bonsoir Mélanie, bonsoir à tous. L'Union européenne cherche à tirer les leçons du scandale des œufs contaminés au fipronil. Mea culpa des autorités néerlandaises ce matin et tous les pays de l'Union européenne seront convoqués le mois prochain par la Commission de Bruxelles. Explication de notre correspondante Lakshmi Lotha au début de ce journal. Et puis réaction de Loïc Coulombel. Il est le président du syndicat national des industriels et professionnels de l'œuf. Selon lui, tous les types d'élevage sont concernés, de l'intensif au bio. Des dizaines de migrants, toujours portés disparus au large du Yémen, originaires de la Corne de l'Afrique, ils ont été jetés en mer par leurs passeurs cette semaine. Nous ferons le point avec Leonard Doyle de l'Organisation internationale des migrations. Enfin, des organes d'animaux seront-ils greffés à l'avenir sur ceux des humains? Une découverte scientifique américaine laisse la porte ouverte et pourrait révolutionner le don d'organes. Les détails avec Marie-France Abastado à la fin de ce journal. Au sommaire du grain d'été, Mélanie Chalandon.
Eh bien, ce soir, nous parlerons de cette pratique, pour ne pas dire de cette injonction de plus en plus courante consistant à évaluer le moindre des services que nous utilisons. Hôtels, restaurants, transports, faut-il noter tout ce que l'on consomme? Nous en débattrons avec trois invités. Sophie Penn, professeure en sciences de l'information à l'université Paris-Descartes, Kevin Degnaud, porte-parole de Blablacar et Arthur Degrave du collectif WeShare.
Merci Mélanie et à tout à l'heure, 18h15. La crise des œufs contaminés au fipronil dépasse les frontières de l'Union européenne. Elle touche maintenant la Suisse, mais aussi Hong Kong. Scandale parti des Pays-Bas où la ministre de la Santé a reconnu des erreurs dans la gestion de la crise ce matin. Deux enquêtes pénales ouvertes aux Pays-Bas et en Belgique avec plusieurs perquisitions et interpellations depuis hier. Et puis, la Commission européenne cherche aussi à faire la lumière sur cette gigantesque fraude qui touche 15 pays de l'Union européenne. C'est une correspondance à Bruxelles de Lakshmi Lotha.
Des œufs contaminés ont déjà été consommés, soit directement, soit sous forme de produits transformés. Les consommateurs s'interrogent, l'Union européenne les protège-t-elle suffisamment? N'aurait-il pas pu être informé plus rapidement? Pour Daniel Rosario, porte-parole de la Commission européenne, le système européen fonctionne.
Ça montre aussi que le système de traçabilité des produits fonctionne. C'est ça qui nous permet assez vite d'identifier où ces produits sont partis, soit dans le cadre de l'Union européenne et aussi dehors de l'Union européenne.
La Commission admet qu'il y aura des enseignements à tirer de cette affaire. Daniel Rosario.
L'Union européenne a un des systèmes les plus avancés et les plus sophistiqués pour protéger nos citoyens, nos consommateurs, pour assurer un des niveaux de sécurité alimentaire les plus élevés au monde. Ceci dit, il y a bien sûr des leçons à retirer de n'importe quel événement et c'est aussi ce qu'on va sûrement faire le 26 septembre.
Cette réunion entre les pays concernés et la Commission européenne se tiendra le 26 septembre. Sous le feu des critiques de ses voisins, les Pays-Bas reconnaissent déjà que des erreurs ont été commises dans la gestion du scandale. Aurions-nous pu aller plus vite, s'interroge la ministre néerlandaise de la Santé. Nous ne sommes pas là pour montrer du doigt un ou plusieurs États membres. Nous verrons ce qui peut être amélioré, conclut la commission.
Correspondance à Bruxelles de Lakshmi Lotha. En France, des œufs contaminés destinés à la consommation ont finalement été mis sur le marché dès le printemps dernier. Au moins 300 000 œufs au total importés depuis la Belgique et les Pays-Bas et reçus par deux centres d'emballage dans le Nord et la Somme. Le ministre de l'Agriculture se veut rassurant. L'Agence nationale de sécurité alimentaire, l'ANSES, estime en effet que le risque pour la santé humaine est très faible au vu des niveaux de fipronil constatés. Selon le principal syndicat agricole, la FNSEA, la France est irréprochable, syndicat qui fustige le laxisme des pays voisins. L'eurodéputé écologiste Yannick Jadot a mis quant à lui ce matin en cause l'agro-business des élevages intensifs. Mais pour le président du SNIPO, le syndicat national des industriels et professionnels de l'œuf, tout type d'élevage sont concernés. Le désinfectant dans lequel a été frauduleusement incorporé le fipronil était en effet vendu aux éleveurs pour lutter contre le pou rouge. Loïc Coulombel minimise par ailleurs la crise au regard des 15 milliards d'œufs consommés par an en France.
La tromperie n'est pas massive, ça concerne un tout petit volume d'œufs, ça concerne un nombre important d'élevages quand même. Ce matin, on a eu communication d'un nombre d'élevages bloqués entre les Pays-Bas et la Belgique de 89 élevages, ce qui est quand même important. Pour avoir une idée, en France, on a 2800 élevages. Tous les types d'élevages sont touchés, il n'y a pas de discrimination en fonction du mode d'élevage. Le pou rouge, il aime le sang de la poule, qu'elle soit bio, plein air, au sol ou en conventionnel, c'est pas grave pour lui et il arrive toujours à survivre parce qu'il va pomper le sang de la poule la nuit et pendant la journée, il va se mettre à l'abri dans un coin dans le bâtiment, dans une mangeoire. Donc, ça touche tous les types d'élevage.
Donc, il n'y a pas de procès à faire de l'élevage en batterie par rapport à cette crise ?
Non. Ça touche tous les modes d'élevage et particulièrement ce produit qui était végétal a été utilisé dans des élevages biologiques. C'est vrai que le consommateur se sent trahi, mais les premiers trahis, c'est toute la filière. Les éleveurs qui ont acheté ces produits, qui pensaient faire un traitement avec un produit végétal pour le bien-être des animaux et qui ont pollué leurs animaux avec un insecticide.
Comment ils vont être indemnisés, ces éleveurs ?
Je ne sais pas si les assurances fonctionnent. Je sais qu'il y a une fraude, donc il y a une enquête judiciaire en cours. Ça prendra du temps.
Des propos recueillis par Marie Viennot. Nicolas Hulot va se tenir à l'écart des activités de sa fondation et de sa marque de cosmétiques dont il percevait toujours une redevance. Un décret ministériel pris à la demande du ministre de la Transition écologique est paru ce vendredi. Il prend effet sur toute la durée de ses activités gouvernementales. Au Kenya, les résultats de l'élection présidentielle étaient attendus à la mi-journée. L'opposition demande à la commission électorale de ne pas précipiter l'annonce du vainqueur. Les soutiens de Raila Odinga, arrivés en deuxième position derrière le chef de l'État sortant, Kenyatta, demandent également l'accès à ces résultats. La commission électorale a jusqu'à mardi pour les proclamer. En Centrafrique, la situation est de plus en plus alarmante. Des témoignages de nouvelles tueries visant parfois des humanitaires et des casques bleus se multiplient. On a appris hier la mort de 6 volontaires de la Croix-Rouge. Une trentaine d'ONG publient aujourd'hui un communiqué pour dénoncer ces violences à l'égard des civils. Nous faisons le point avec Élise Delève.
La Centrafrique est le pays le plus dangereux au monde pour les humanitaires. Plus de 180 incidents, attaques ou assassinats depuis le début de l'année. Avec ce communiqué, Duccio Staderini, coordinateur des ONG internationales en Centrafrique, veut que l'on arrête de banaliser la violence dans ce pays.
On est loin de couvrir l'intégralité des besoins en Centrafrique. On a des évacuations régulières, y compris cette semaine, d'un certain nombre de lieux. Rien que dans les derniers mois, on a 8 préfectures sur 16 qui ont été affectées par la violence et qui nous ont obligés à réduire notre présence, voire à suspendre des activités vitales. C'est ça notre cri d'alarme. Nous, déjà, on demande de pouvoir faire notre boulot et ce serait déjà un soulagement pour les populations victimes de cette violence.
La semaine dernière, 6 volontaires de la Croix-Rouge ont été tués lors d'une attaque d'un centre médical. Que peut-il y avoir de pire ? S'interroge Duccio Staderini. Le coordinateur demande à ce que le droit humanitaire soit respecté. Cela veut dire garantir un accès sécurisé des civils aux secours d'urgence et aux services de base. Selon l'ONU, la moitié de la population centrafricaine a besoin d'une aide humanitaire pour survivre.
Précision signée Élise Delève. Près de 300 migrants ont été volontairement jetés en mer par des passeurs cette semaine au large du Yémen, sur la côte de Chaboua, au sud du pays. Au moins 50 personnes sont mortes et d'autres sont encore portées disparues. Selon l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, ces réfugiés étaient d'origine éthiopienne ou somalienne. Les migrants en provenance de la Corne de l'Afrique empruntent en effet depuis longtemps cette route vers les pays du Golfe plus riches. Le mouvement ne faiblit pas en dépit de la guerre civile au Yémen. L'OIM estime à 55 000 le nombre de personnes, dont un tiers de femmes arrivées dans le pays depuis le début de l'année. Plus de 30 000 d'entre eux ont moins de 18 ans. Les précisions de Léonard Doyle, il est le porte-parole de l'OIM à Genève.
C'était utilisé depuis longtemps. Ce qui a changé, c'est que la guerre devient plus dangereuse. J'avais beaucoup de problèmes avec le choléra et la famine. Et c'était toujours dangereux. Maintenant, on voit l'attitude de ces passeurs. C'est qui est franchement horrible. La guerre au Yémen donne une occasion, mais ça crée des dangers extraordinaires.
Est-ce que les migrants qui prennent cette route vers le Yémen ont conscience de cette situation sur place ?
C'est surtout des jeunes hommes de 16 ans, plus ou moins, qui ont des contacts, la famille peut-être, en Arabie Saoudite, qui ont reçu des messages, probablement à travers WhatsApp ou un de ces réseaux sociaux, et qui disent, tiens, il y a des travaux ici, vous pouvez venir. Et ils ne savent pas exactement qu'est-ce qui se passe, ils ne savent pas quels sont les dangers. Même s'ils arrivent en Yémen, il y a toujours des autres problèmes avec les passeurs. La plupart sont des migrants économiques, si vous voulez, qui essaient de passer vers les pays du Golfe. Souvent, on les traite d'une manière terrible et ils décident de retourner chez eux. Mais c'est à cause de la guerre civile, ça, c'est bien une confusion énorme pour ces jeunes. On ne peut pas faire grand-chose pour eux, sauf on essaie de communiquer avec les familles en Somalie et en Éthiopie, mais c'est très difficile parce que souvent, ils n'ont même pas les papiers avec eux.
Leonard Doyle, le porte-parole de l'Organisation internationale des migrations, était avec Jacqueline Fardel. En mer Méditerranée, la campagne Defend Europe des militants identitaires européens va-t-elle être tournée au ridicule? Leur bateau, Sistar, rencontre de nouvelles difficultés au large de la Tunisie. Le navire est actuellement à l'arrêt en raison d'un problème technique et une ONG de sauvetage des migrants a proposé son aide. Justine Fontaine nous appelle de Tunis.
Le navire s'était signalé pour la dernière fois mercredi midi au large des côtes tunisiennes après que des pêcheurs ont refusé dimanche que le bateau vienne se ravitailler dans le pays. Et ce matin, après plusieurs jours de silence, le Sestar émet un signal de détresse. Procédure habituelle dans ce cas, c'est le bateau le plus proche d'eux qui doit leur venir en aide. Bateau qui n'est autre que celui de l'ONG allemande CI qui secourt les migrants en Méditerranée. Sur les réseaux sociaux, il affirme avoir pris la direction du Sestar avec l'accord des autorités maritimes. De quoi faire sortir de leur silence les militants identitaires du navire. Quelques minutes plus tard, ils expliquent sur les réseaux sociaux, eux aussi, qu'un léger problème technique les a poussés à couper le moteur principal du bateau, ce qui a déclenché l'envoi automatique d'un signal de détresse. Le problème est sur le point d'être résolu, concluent les militants d'extrême droite, qui visiblement ne veulent pas de l'aide d'une ONG dont ils sont venus critiquer le travail en Méditerranée. Selon CI, qui a finalement réussi à les contacter par radio cet après-midi, ils ont formellement refusé d'être secourus par l'ONG allemande. Le bateau humanitaire vient donc de retourner à ses activités habituelles, mais l'équipage du Sistar n'indique pas pour le moment si la panne a été réparée.
Les précisions à Tunis de Justine Fontaine. En Égypte, il y a au moins 36 morts après la collision entre deux trains dans le nord du pays. L'accident a fait également 123 blessés selon le ministère de la Santé. Enfin, c'est une découverte scientifique qui pourrait venir en aide aux personnes en attente de dons d'organes. Deux scientifiques américains ont réussi à faire en sorte que des organes de porc génétiquement modifiés deviennent compatibles avec ceux des humains. Les explications de Marie-France Abastadou.
La xénotransplantation, c'est-à-dire la transplantation d'organes d'animaux sur des humains, est encore freinée par la possible transmission de virus à l'homme. Mais deux scientifiques américains de l'Université de Harvard aux États-Unis ont réussi à modifier le génome de porcelets afin que leurs organes soient compatibles avec le corps humain. Ils ont mis au point un nouvel outil de modification génétique qui a permis de désactiver tous les rétrovirus porcins qui pouvaient poser un danger pour l'être humain. Selon l'article publié dans la revue Science, ils ont par la suite procédé à la conception par clonage de 37 porcelets, desquels théoriquement des organes pourraient être prélevés dans le but de les transplanter. Mais tous les dangers ne sont pas écartés pour autant, entre autres celui du rejet de ces organes étrangers par le corps humain. Et si on a déjà transplanté avec succès des cellules de pancréas de porc à des personnes diabétiques ou encore des valves cardiaques, la transplantation d'organes plus volumineux pose toujours problème, rappelle le professeur Jean-Paul Souliou, médecin au Centre de recherche en transplantation et immunologie de Nantes.
D'abord, l'extrême violence, entre guillemets, de la réponse immune contre les tissus génétiquement très éloignés comme celui du porc, qui est progressivement contrôlé. Il y a maintenant des greffes de cœur qui tiennent sur le primate plusieurs années et des greffes de rein presque un an. Donc il y a des avancées très importantes, mais la force du traitement immunosuppresseur pour arriver à ces résultats reste toujours trop importante pour imaginer que ça puisse être tenté chez l'homme rapidement.
Les Français sont de plus en plus nombreux à être en attente d'une greffe d'organes à cause du vieillissement de la population. En 2016, ils étaient plus de 22 600, le rein étant l'organe le plus en demande.
Explication signée Marie-France Abastadou. La météo de votre samedi matin, temps pluvieux au nord de Paris, ciel ensoleillé partout ailleurs et les températures 17 à Strasbourg et Cherbourg, 18 à Lille, 19 à Bordeaux, 21 à Lyon, 24 à Marseille et Ajaccio. Journal préparé avec Caroline Beneteau. À la technique, c'était Jean-Guilain Meige.